Bon matin à vous tous. M'entendez bien, ça va? L'accent, ça va? Les Suisses, les Français, ils aiment tellement se moquer de nous, les Québécois. C'est gentiment, c'est de l'amour, voilà. Okay. J'aimerais vous dire qu'il y a juste ici que j'ai un accent. Au Québec, ça se passe beaucoup mieux. Je suis content d'être avec vous. Merci au pasteur Luc aussi de son accueil à chaque fois. Maintenant, c'est effectivement c'est presque un séjour régulier annuellement en Suisse. Ce n'est pas un fardeau pour moi. J'aime beaucoup, avec les années, ce tisse des amitiés aussi. La dernière fois que je suis venu, en fait, c'est l'an passé, au mois de mai, et j'avais mon nouveau livre qui était tout juste sorti de presse en Europe, mais il n'était même pas sorti au Canada encore. J'ai fait le lancement un mois plus tard à Nouvelle Vie, à l'Église Nouvelle Vie. Mais depuis ce temps-là, il s'est rajouté plein de nouveautés. Il y a un site web associé au livre avec 15 vidéos qui sont là et d'autres de nouveaux vidéos vont se rajouter. Il y a le manuel d'accompagnement qui a été finalisé, qui fait que les gens peuvent, et je vais en parler un petit peu ce matin, faire une... pas une cure d'amaigrissement, mais une cure de transformation dans leur vie, en prenant vraiment leur vie en main. J'ai la joie de vous dire que le livre est en traduction anglaise en ce moment, et le manuel est en traduction espagnole aussi. Dieu pourvoit de façon fascinante, et je crois que c'est simplement la manifestation de son désir de toucher de plus en plus de gens, surtout de les transformer, et c'est le titre du message de ce matin. En fait, ou le thème du message de ce matin plutôt, la transformation. Et encore une fois, moi, comme pasteur et surtout aussi comme thérapeute, c'est-à-dire j'ai rencontré des gens pendant plus de 45 ans à l'église où j'étais et aussi dans mon cabinet. Et la véritable question qui se pose, c'est malgré le désir de changer de beaucoup de gens, pourquoi les gens ne changent pas? Il y a une expression québécoise qui dit... Et ne me posez pas la question quelle est l'origine de cette expression. Une expression québécoise qui dit « plus ça change, plus c'est pareil ». Deux gars se rencontrent, « ça va, toi ?»« Ah ouais, et plus ça change, plus c'est pareil ». Autrement dit, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge et tout ça. Donc, ça m'amène à ce genre de questions. Et je vais vous proposer quelque chose ce matin en introduction à ce message. Pourquoi les gens ne changent pas? Les gens ne changent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. Aussi incroyable que cela peut être, beaucoup croient qu'il est impossible de changer. Leur raisonnement ressemble à ceci. Mon père était comme cela, mon grand-père était comme cela, mon arrière-grand-père était comme cela. C'est comme ça que ça se passe dans la famille. C'est inchangeable. Évidemment, ce qui nourrit un peu le raisonnement, c'est l'ignorance, la conviction quelque part que les choses ne peuvent pas changer. En second lieu, les gens ne changent pas parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer. Et là, c'est un phénomène fascinant. Et peut-être que vous l'observez chez certains de vos amis ou chez certains membres de votre famille, peut-être même la famille élargie, où malgré une vie mal en point, malgré un état de détérioration de leur personne, de leur relation et tout ça, eux ne ressentent pas le besoin de changer. Moi, je connais des gars qui sont hyper colériques, je les appelle des terroristes familiaux. Ils intimident tout le monde autour d'eux, mais eux sont bien, ils s'expriment. Moi, je suis libre. Ouais, mais toi, tu es libre, mais tu oppresses tout le monde autour de toi. Tes enfants te craignent et tout ça. Mais lui, il ne ressent pas le besoin de changer. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Je sais que cela peut paraître un peu un jugement. Et j'aime pas quand les gens disent « Tu veux pas, ou si tu voudrais réellement, tu changerais. » Je reviens dans quelques instants. Mais en fait, c'est pas tant qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. En fait, ils veulent, mais ils ne prennent pas les moyens et les initiatives pour changer. Autrement dit, il y a une déclaration d'intention, je veux changer, mais ils ne font rien pour changer. Ils résistent à l'idée, encore une fois, de prendre des mesures pour réellement changer. Et on le vit surtout en début d'année, lorsqu'on a nos fameuses résolutions du début d'année. On est bien intentionné. Cette année, je me remets au sport. Cette année, je perds du poids. Cette année, et la résolution dure quoi, quelques semaines à peine. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais nous, au Canada, les salles de sport font des profits incroyables parce que les gens disent « ça y est, cette année, je prends un abonnement pour l'année ». Ils vont deux, trois fois, et ça y est, c'est de l'argent vite gagné pour les organisateurs de ces salles de sport. Et les gens ne changent pas, quatrièmement, parce qu'ils ont peur de changer. Il y a une certaine sécurité dans le statu quo. J'appelle ça le désespoir confortable ou le confort désespérant. Prenez la version qui vous plaît le plus. Ou à quelque part entre changer et ne pas changer, il y a quelque chose qui se joue au niveau des émotions. Le changement est perçu comme quelque chose de menaçant. OK? Et c'est pas nouveau. Il y a un texte, si vous me permettez, je l'ai relu ce matin. Il y a un texte dans le livre d'Exode qui est fascinant. Vous connaissez l'histoire du livre d'Exode, vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse doit fuir l'Égypte, Pharaon en veut à sa vie. Et il se retrouve 40 ans dans le désert et Dieu l'interpelle au buisson ardent. Vous connaissez cette histoire? Au buisson ardent, Dieu lui dit, tu vas retourner en Égypte, tu vas aller libérer mon peuple. Et regardez bien ce que Dieu lui dit. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël. Et en fait, ce qu'a fait Moïse, c'est qu'il a réuni les anciens du peuple lorsqu'il revient en Égypte. Et là, il leur dit, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Et ça continue pendant quelques versets. Mais regardez bien ceci, écoutez bien ceci. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Et là, tout le monde aurait dû se lever dans le peuple et faire la vague. On disait, yes, ça fait 400 ans qu'on fait des briques, ras-le-bol des travaux forcés, on va être libérés. Mais le texte nous dit au contraire, l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. C'est comme si ce matin, je viens devant vous, je vous prêche un message, qu'au lieu de m'écouter et d'ouvrir très grand vos cœurs, vous dites non, je veux rien entendre. C'est un message d'espoir que leur livre Moïse, mais l'angoisse, elle est là. Et c'est tellement cela, c'est tellement vrai. Et il y a deux éléments importants. L'angoisse, c'est la dure servitude. Donc, l'angoisse, c'est évidemment cette peur de l'inconnu. Écoutez bien ce que je dis ce matin. Entre le connu douloureux et l'inconnu générateur d'angoisse, pour 200 francs, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que les gens vont choisir? Ils vont choisir le connu douloureux. Ils vont rester sur place. Et c'est ça le drame. Et c'est ce qui arrive au peuple d'Israël. Et il y a l'angoisse qui est là, évidemment, la peur du changement, la peur de l'inconnu. Il me semble, moi, quand je raisonne purement humainement, qu'après 400 ans à faire des briques, à vivre en esclavage, être limité dans mes mouvements, être asservi, il me semble qu'il ne peut se passer que quelque chose de mieux que cette situation-là. Mais c'est l'angoisse qui les empêche de croire et de faire confiance à Dieu. Et le texte parle aussi de dure servitude. L'angoisse et la dure servitude. Lorsque ça fait 400 ans que tu es esclave, 400 ans, c'est 10 générations selon la façon moderne de voir les choses, ou de génération en génération, la seule chose que tu as connue dans ta vie, c'est l'esclavage. OK? Bien, tu penses comme un esclave, tu vis comme un esclave, tu marches comme un esclave. Pourquoi? Parce que c'est identitaire. Tu es devenu un esclave. Donc, l'idée de changer de peau, l'idée de changer de condition, l'idée de devenir quelqu'un d'autre, l'idée de marcher en toute liberté, c'est presque inimaginable. Et c'est ça qui les empêche de croire. Et c'est aussi le cas pour beaucoup de gens dans ce monde qui, de génération en génération, vivent des choses et ne croient pas que les choses pourraient changer. Voyez-vous? Ça peut être l'alcoolisme de génération en génération. Du côté de ma mère au Canada, du côté de ma mère est décédée depuis plusieurs années maintenant, tous les hommes sur 3-4 générations sont tous des alcooliques. Donc, mes oncles étaient alcooliques, mon grand-père était alcoolique, le père de mon grand-père était... Voyez-vous? Et c'est dur c'est un poids, ça, cette génération, c'est le poids des générations précédentes qui nous pousse à littéralement, c'est presque une forme de déterminisme. Hein? T'as beau essayer de changer, tu ne changeras pas, les dés sont pipés, là, voilà. Alors, la réalité, c'est qu'effectivement, je suis venu ce matin vous dire qu'il y a de l'espoir pour tout cela. Cinquièmement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne font rien pour changer. Ils espèrent, ils rêvent, ils imaginent, ils en parlent, ils aspirent. Je peux vous donner tous les synonymes du dictionnaire, si vous voulez. Mais ils ne posent jamais le geste. OK? Ils ne passent pas à l'action. La réflexion précède le changement, mais ne change strictement rien. Vous pouvez passer votre vie à concocter des plans, à vous imaginer, à réfléchir. Si vous ne bougez pas, les choses ne bougeront pas. Le changement prend place dans l'action. Et dernièrement, sixièmement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne peuvent pas changer. Et là, c'est une vérité fondamentalement biblique, malgré, et peut-être pour vous, ça va être une source aussi d'espoir ce matin, parce que j'essaie, je réessaie, je promets, jamais plus je recommencerai, tout ça, et on retombe à chaque fois. Et l'apôtre Paul l'a bien exprimé, il a dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je veux, mais je ne peux pas. Donc, vous savez, cette espèce d'énoncé, vous savez, tout près de chez moi, à peu près à 45 minutes de chez moi, il y a un tout petit pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et les Américains, on a une relation un peu bizarre avec les Américains, nous, parce qu'il y a une expression qui dit d'ailleurs, quand les Américains ont le rhume, le Canada tous. Donc, ça vous donne un peu une idée de la proximité. Et ils ont toujours des phrases pompeuses, hein, vouloir, c'est pouvoir, see you at the top, vous voyez, tout ce rêve-là. Mais la réalité, c'est la réalité profondément humaine, c'est que parfois on veut, mais on ne peut pas, parce qu'on sent, on ressent à l'intérieur de soi-même, une force qui lutte, comme l'apôtre Paul disait, contre notre entendement. Peut-être ce matin, je viens de vous convaincre que changer est impossible. Évidemment, ce n'est pas le but du message de ce matin, au contraire. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour notre vie? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour notre condition? Et là, je parle autant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Oui, il y a de l'espoir. Est-ce que je peux vous poser une question ce matin? Ben, je vais laisser faire. Je pense que vous ne voulez pas. Est-ce que je peux vous poser une question ce matin? Quels sont ceux qui croient en ce lieu, en ce dimanche matin, à Yverdon, quels sont ceux qui croient que Jésus peut changer une vie? Bon, maintenant, c'est bien, je m'attendais bien à ce que vous leviez la main, hein, je ne sais pas. Je vous dis, non, il n'y a pas question, OK? Mais par contre, j'aimerais vous dire que je pense différemment de vous. Je ne crois pas que Jésus change les vies. Ouais, Luc, ça va mal. Ça se passe mal ce matin. Je ne crois pas que Jésus change des vies. Je crois que Jésus change des personnes. Et quand la personne se met à changer, qu'est-ce qui se passe? C'est sa vie qui se met à changer. Maintenant, vous dites, ah, pasteur Denis, c'est la même chose. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que les choses se passent en dehors de nous, sans notre participation, sans, Seigneur, je vais me réveiller un bon matin, je t'ai prié hier soir, puis j'ai été changé durant la nuit, transformé instantanément. Les choses vont changer dans la mesure où moi je vais changer, où moi je vais être transformé. Donc au lieu de dire dans vos prochaines prières, Seigneur, change ma vie, vous allez lui dire quoi? Change-moi, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que toi tu veux que je fasse, et ce que je puisse avoir en retour ce que toi soit pour moi. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Maintenant, on va jeter un regard dans le Nouveau Testament sur une histoire très particulière, un de mes récits préférés. C'est une rencontre entre Jésus et un personnage très spécial, un personnage profondément méprisé par sa communauté. Si vous voulez, on va jeter un regard, le texte va apparaître à l'écran, je vais le lire pour vous. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts. Déjà, d'accord avec moi, ça ne commence pas bien. Le collecteur d'impôts, habituellement, ça n'a pas beaucoup d'amis. Et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux. Il dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Répète après moi, tous critiquaient Jésus. Tous critiquaient Jésus. Et disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois autant. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Répétez après moi. « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » C'est comme si Jésus dit, « Wow, il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme. » Jésus valide quelque chose, valide une expérience qui s'est passée dans la vie de Zachée. C'est intéressant comme récit. Je me suis posé la question lorsque j'interrogeais ce texte, Pourquoi a-t-il, ce texte apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament, une seule fois dans les Évangiles. Pourquoi a-t-il plus au Saint-Esprit de sauvegarder ce texte, cette histoire? Il y a deux, à mon avis, il y a deux facteurs majeurs. Peut-être que vous pourriez en trouver d'autres. Le premier facteur, c'est que je vous ai fait répéter tout ce que critiquait Jésus. Et pourquoi se sont-ils mis à critiquer Jésus ainsi? Parce qu'ils ne comprennent pas Jésus. Parce que dans leur théologie de l'époque, dans leur façon religieuse de voir les choses, c'est impossible que Dieu s'intéresse à un pécheur. Et ils ont une vision de Dieu, ils ont une conception de Dieu, et Jésus arrive en contradiction, c'est presque une inversion de ce qu'ils savent de Dieu et de comment Jésus. Donc Jésus est la personnification, je pourrais dire ainsi, humaine d'un Dieu. Vous savez, un jour, je suis à mon bureau à l'église, puis il y a une dame que je suis depuis quelques entretiens, qui est bien mal en point. Puis un jour, elle rentre dans mon bureau, et elle me dit, « Pasteur Denis, ah, vous savez, je ne vais pas ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe, ma bonne dame? J'ai de la difficulté avec Dieu. Vous savez, je le trouve compliqué. Je n'arrive pas à le comprendre. Puis vous savez quoi, Pasteur Denis? J'aimerais ça parfois que Dieu prenne une forme humaine pour que je puisse comprendre de façon plus réelle. Puis moi, je réponds à la dame, ça a déjà été fait. Elle dit, comment ça a déjà été fait? Puis la réponse est Jésus. Et je crois qu'une partie de la venue de Jésus, au-delà du salut, c'est de rendre Dieu accessible, Dieu compréhensible. Donc, parfois, vous avez des difficultés avec le Père, allez voir le Fils, OK? C'est beaucoup plus accessible, mais en fait, c'est la même chose, vous savez, mais on est dans l'ordre de la perception. Et la deuxième raison pourquoi ce récit est sauvegardé, c'est parce qu'on assiste ici à un changement radical dans la vie d'un homme. D'un homme dont ce n'était pas gagné. D'un homme qui avait une certaine stature. Vous avez remarqué dans le texte qu'il y a trois caractéristiques chez Zachée. Premièrement, c'est un homme qui est riche. C'est un homme qui est, en fait, je pourrais vous dire, avant d'être riche, c'est un homme de pouvoir. C'est un chef des publicains, c'est un chef de collecteur d'impôts, c'est un businessman véreux qui fait en sorte que plus il prélève des impôts, parce que lui, il a sa cote dans tout ça, plus il en prélève, plus lui fait de l'argent. Et certains théologiens et historiens disent qu'en collectant un petit peu plus pour s'en mettre dans les poches, pour quoi, petite monnaie, là, pour les périodes du mois qui sont difficiles. Alors, les gens le méprisaient autour de lui parce que, justement, à cause de ce pouvoir. Et vous savez que est-ce que vous réalisez que le pouvoir est addictif? Le pouvoir est addictif. Est-ce que vous avez déjà vu un dictateur prendre sa retraite? Dire, là, j'en ai ras-le-bol d'opprimer le peuple, moi, ras-le-bol, je me retire, je m'en vais à mon chalet, à la chasse, à la pêche, et finir la dictature. Vous ne voyez pas ça, hein? Parce qu'il y a des grandes dictatures, bien sûr, de pays, de nations, mais il y a des petites dictatures où des gens, pensez à certains de vos patrons au bureau, vous savez qu'ils ont le pouvoir, hein, puis ils jouent du pouvoir. Zachée, c'est un homme de pouvoir. C'est un homme riche aussi, mais il y a un troisième petit détail, que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'était un homme de petite taille. Encore une fois, ça nous amène à la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui est important, le fait d'être en petite taille? Mais en fait, c'est ce qui change. Il y a des drames dans la vie, hein? Ce qui est important de savoir, c'est que cette dimension de petite taille est une illustration de ce qui va se passer dans sa vie au juste. Maintenant, je vais tenter de voir avec vous quatre caractéristiques, parce que quand on lit le texte comme ça, comme je l'ai lu tout à l'heure, on va dire « Wow, c'est super, il a rencontré Jésus, paf, sa vie a changé. » Pop. C'est pas aussi simple que cela. Il s'est passé quelque chose. Il y a un travail qui se fait à l'intérieur de la personne. Et la première clé ce matin, c'est ce que j'appelle le travail de conviction. Un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il cherche à voir qui était Jésus. Retenez cela. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, qu'il était de petite taille. Regardez-moi ici un instant. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de cet homme. Pour qu'il cherche à voir Jésus, il est interpellé par quelque chose. Okay? Il y a quelque chose qui le travaille à l'intérieur, qui le pousse ainsi à chercher, au point de s'humilier devant les gens. La foule, elle est là. Et lui, petite taille, homme de pouvoir, vous pouvez imaginer un peu comment les gens disent, mais t'as vu, c'est Zachée, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et Zachée monte dans un arbre, il y en a de plus, pour un notable d'une communauté, il y en a de plus caricatural, je dirais, c'est phénoménal comme situation. Mais qu'est-ce qui le pousse? Il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur de lui, qui l'amène à vouloir à mettre de côté sa réputation, ce que les gens pourraient penser de lui. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il commence à naître en lui une conviction. Et je vous ai mis la définition de la conviction, c'est une prise de conscience intérieure, profonde, viscérale de notre condition. Arrivé à la conclusion, il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Les gens autour de moi ne peuvent pas être toujours coupables. Moi, je dis souvent à ma femme, n'oublie jamais dans la vie qu'il y a toujours quelqu'un à blâmer. Il s'agit de trouver la bonne personne. Cette conviction intérieure prend deux formes. Ça prend, premièrement, comme je viens de le mentionner, la reconnaissance de mon état. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais aussi, le deuxième aspect de la conviction qui génère de l'espoir, c'est la possibilité du changement. Et si ça pouvait changer? Et si les choses pouvaient changer? Je ne peux pas dire cette phrase-là sans me souvenir de ma propre conversion il y a plus de 48 ans maintenant. Je ne vous dirai pas l'âge à laquelle je me suis converti, vous allez additionner pour savoir l'âge que j'ai à l'heure actuelle. Mais je me souviens là, Seigneur, j'en peux plus de ma vie, est-ce que les choses pourraient changer? Tout d'un coup, Jésus m'a été proposé par un ami et j'ai sauté sur l'opportunité. La réalité est la suivante. Les gens doivent s'ouvrir au changement, peuvent arriver à cette notion de possibilité, mais cette notion de possibilité doit être précédée par une conviction qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un auteur anglais qui s'appelle Chesterton qui dit un jour, ce n'est pas qu'il ne voit pas la solution, c'est qu'il ne voit même pas le problème. Et tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une reconnaissance du problème, on ne peut pas passer à l'étape suivante. On ne peut pas corriger ce dont on n'est pas conscient. Or, ça amène la question, qu'est-ce qui nous empêche, vous et moi, de voir nos problèmes? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un petit mécanisme à l'intérieur de tous les êtres humains, personne n'y fait exception, un petit mécanisme, qui s'appelle le déni. Et le déni prend deux formes. Il y a un déni conscient qui dit, je ne veux pas voir. Non, je ne veux rien savoir. Je fuis, j'évite, je regarde ailleurs, je ne pose pas de questions, je m'anesthésie. Et il y a un déni qui est inconscient, c'est que je ne vois pas. Il y a des gens qui ne voient pas, qui sont des aveugles, qui ne voient pas ce qui se passe dans leur propre vie, malgré le fait que parfois les gens autour d'eux leur disent. Or, c'est un refus de voir la réalité, et tant aussi longtemps qu'on ne la verra pas cette réalité-là, les choses ne pourront pas changer. Mais tôt ou tard survient dans la vie une crise, un événement, et la façon dont on va y faire face va déterminer le dénouement possible et, bien évidemment, le bonheur futur. Et cette crise qui survient souvent, c'est un mégaphone qui nous interpelle. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Et évidemment, tous les êtres humains ne sont pas aussi souples. Certains vont résister, malgré le fait que leur vie est mal en point. Mais chez Zachée, quelque chose va se passer de beaucoup de positif. Cette conviction va l'amener à reconnaître quelque chose. Jésus s'invite chez lui, et dans cette rencontre va naître la possibilité d'un changement presque radical. Et ça m'amène à la deuxième clé ce matin. Vous êtes toujours avec moi? Ça va l'accent? Merci. Deuxième clé, la contrition. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Vous êtes d'accord avec moi que dans cette phrase-là, bien que l'émotion n'est pas nommée, il semble avoir un certain regret. Il y a quelque chose qui le pousse. Il n'est pas bien avec lui-même. Il se tient devant le Seigneur. Et il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur. Zachée semble avoir des regrets. La prise de conscience de ce qu'il fait ou la prise de conscience de ce que nous faisons génère des émotions désagréables. Tristesse, culpabilité, parfois la honte, parfois le désespoir. Et que font les êtres humains lorsqu'ils éprouvent des émotions désagréables? Il tente de les étouffer, de les réprimer, de les engourdir, de les anesthésier. Ils ne veulent pas ressentir ces choses-là, mais ces émotions sont porteurs d'un message. L'émotion t'arrête de me dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas normal que je me sente comme cela. Et malheureusement, et c'est triste, c'est fou, c'est incroyable ce que les gens sont prêts à faire pour ne pas ressentir de douleur, de ce que j'appelle la souffrance morale. C'est une souffrance qui est morale, ce n'est pas une souffrance physique. Ils sont prêts même à causer de la douleur aux autres pour ne pas ressentir leur propre douleur. Les gens blessés blessent les gens autour d'eux. Les gens malheureux rendent les gens malheureux autour d'eux. si vous et moi, on ne cherche pas à comprendre ce qui se trame à l'intérieur de nous, c'est peine perdue. Il n'y a pas de changement possible. On doit vivre en fonction de ce qui se passe à l'intérieur et bien sûr d'effectuer les correctifs nécessaires en temps et lieu. Mais encore une fois, je le répète, c'est malheureux parce qu'au lieu d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, nous étouffons tout cela. Nous refusons de voir. Vous allez regarder le prochain texte qui va apparaître à l'écran. Si tu parlais à la deuxième diapo, la prochaine diapo, Épître de Jacques, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie se change en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Je me souviens de la première fois que j'ai lu ce texte-là, je dis, waouh, c'est dur comme texte. C'est comme si Dieu dit, sens ta douleur. Et si vous me permettez, je vais faire une petite modification au texte. Au lieu de dire, sentez votre misère, je vais vous dire, ressentez votre misère. Et là, tout d'un coup, ça devient un peu plus, c'est pas Dieu veut me faire souffrir ou Dieu veut m'humilier, tout cela. C'est comme si Dieu me disait, as-tu assez souffert? As-tu assez souffert? Prends-tu conscience de ton état? As-tu assez mal à l'intérieur de toi pour vouloir changer? Et le fait d'être branché sur notre douleur, ce n'est pas une dimension de masochisme, souffrir pour souffrir. Ça nous amène à changer. D'ailleurs, le facteur le plus prévisible que quelqu'un va faire une démarche sérieuse pour changer, c'est la souffrance. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont peur du dentiste? Ouais, qu'est-ce qui se passe en Suisse? Jamais il y a une personne qui lève la main, il y a 3-4. Pourquoi vous avez peur du dentiste? Parce que vous êtes intimidé, ça peut être l'aiguille, la seringue et tout ça. Je suis d'accord, ce n'est pas une place qu'on ne va pas en vacances chez le dentiste, je suis bien conscient de cela. Mais la réalité, c'est que cette peur du dentiste amène les gens à tolérer une souffrance à l'intérieur d'eux-mêmes, la rage dedans, le mal dedans. Et certains d'entre vous, vous pourriez me raconter toutes vos stratégies pour étouffer la douleur dans votre dent. Là. Nous, on avait toutes sortes de trucs quand j'étais jeune, on mettait une espèce de produit, une espèce de gel, on mettait parfois de l'aspirine, bloquer le trou pour que ça s'anesthésie un tout petit peu. Et des gens peuvent passer des mois et des mois et des mois et des mois et parfois même une année ou plus qu'une année éviter d'aller chez le dentiste. Donc, ils vont souffrir pendant tout ce temps-là, ne réalisant pas qu'en une demi-heure, 45 minutes, le problème pourrait être résolu. La peur les empêche, ce que je mentionnais un peu plus tôt, d'aller. Alors, la souffrance, elle est porteur de message. Il faut la comprendre et la saisir. Le fait, et c'est ça le sens de contrition. Le sens de contrition, c'est un vieux terme qu'on utilise très peu de nos jours, mais c'est le fait d'éprouver l'état de quelqu'un qui est plein de regrets, puis non seulement du regret pour du regret, mais qui veut réparer l'état parce qu'elle ne veut plus ressentir cela. Et on arrête de ressentir quand on fait des correctifs nécessaires, non pas en étouffant nos émotions. Frères et sœurs, ce matin, si la douleur, c'est votre souffrance morale intérieure, ne vous conduit pas à l'humidité, vous avez gaspillé votre souffrance. Elle ne vous sert de rien, c'est souffrir pour souffrir seulement. Et vous savez, l'humilité, c'est une qualité, hein? C'est une vertu fondamentale chez l'être humain. Et vous savez, les humbles ne sont jamais humiliés. C'est les orgueilleux qui sont humiliés. C'est eux qui ont peur de perdre quelque chose, peur de perdre la face, peur de perdre leur réputation et tout ça. Mais les gens humbles, et vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Donc, lorsque je viens devant lui, tout simplement, humblement, en disant, « Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. » Dieu ne cherche pas à nous humilier, il ne cherche pas à nous écraser, il ne cherche pas à nous faire souffrir, il cherche à nous relever, nous restaurer, nous rétablir pleinement. Troisième clé ce matin, la confession. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Okay? » Vous savez, la notion de confession, c'est particulier. Puis vous savez qu'au début de l'ère chrétienne, ou la première église, l'église primitive qu'on appelle communément, la confession avait une place importante. Regardez bien ce texte, Actes chapitre 19, on est au début de l'église. « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Dites-moi, est-ce qu'on voit ça de nos jours? Est-ce que vous voyez ça de nos jours dans nos églises? Non, ça ne se passe pas en Suisse, ça ne se passe pas en France, ça ne se passe nulle part ailleurs. On justifie, on explique, mais on ne confesse pas. On ne reconnaît pas les choses. Mais là, Zachée, lui, il reconnaît. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose, je lui rends le quadruple. Et là, vous savez, il se mouille verbalement. Là. Il est devant Jésus, là. Et donc, il s'engage, il dit quelque chose. Et vous savez, il est lié par ses paroles à partir du moment où tout cela est confessé publiquement, ou du moins devant Jésus. Le verbe « confesser » utilisé dans le Nouveau Testament, ça vient du grec « homologeo », qui donnait naissance en français au terme « homologué ». Donc, quand je confesse, c'est que je m'entends avec la personne que ce que j'ai fait n'est pas bien. Okay? Mais c'est fou comment c'est difficile de confesser et de reconnaître les choses. Scène de la vie conjugale chez les Morissettes au Canada. Ma femme s'appelle Marie-Jo. Je dis, Marie-Jo, je m'excuse hier, j'étais un petit peu désagréable et tout ça. Elle dit quoi? Je dis, hier, j'ai été un petit peu désagréable. Est-ce que tu pourrais répéter? Ça va, alors, OK? Mais vous voyez le malaise intérieur, okay? Malgré que je suis conscient que j'ai été désagréable, le fait de le dire, c'est comme si notre univers s'effondre. On est dans quoi? On a une espèce de problème complètement imaginaire, là. OK? C'est difficile. Alors, imaginez-vous que pour les petites contrariétés comme ça, comment ça peut être difficile. Imaginez-vous dans quelque chose de beaucoup plus grave, lorsqu'on doit reconnaître et confesser. Alors, vous pouvez imaginer le travail qui se passe dans le cœur de Zachée, parce qu'il est en train de reconnaître qu'il a usurpé, qu'il a volé, qu'il a opprimé, qu'il a exploité. Il le reconnaît devant Jésus. Non seulement il le reconnaît, mais il est prêt à faire réparation de ce qu'il a causé. Est-ce que vous commencez à comprendre ce matin pourquoi les gens ne changent pas? Parce que ça coûte quelque chose, le changement. Ça coûte notre implication. Il faut se mouiller. Confesser, c'est beaucoup plus que simplement reconnaître nos erreurs et les avouer. C'est un acte relationnel. C'est pas juste reconnaître, « Ouais, Seigneur, je confesse, j'ai manqué. » C'est beaucoup plus que cela. Et le sens de confesser, c'est le sens de reconnaître devant la personne, évidemment, mais surtout de mettre en lumière ce qui est caché. Une véritable confession, c'est jamais flou. Donc, une des premières règles de la confession, c'est d'enlever le « mais » ou le « si ». « Si jamais je t'ai blessé, je m'excuse. » Ça m'arrive, moi, parfois, que des gens viennent me voir, « Pasteur Denis, si jamais j'ai dit quelque chose contre vous, mais justement, qu'est-ce que tu as dit? J'aimerais bien savoir. »« Ah ben, peut-être que accidentellement, si tu n'as rien fait, pourquoi tu viens me voir pour me le dire? » Voyez-vous? C'est très agréable, très confortable, le flou. Mais avec le flou, on est à côté de la plaque. Là. On ne corrige pas les choses. Mais ça, voilà pourquoi ça prend du courage. Et c'est ça le sens de la confession. Regardez bien ce que la Bible dit. Prochaine diapo. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ceux qui refusent de reconnaître leur état, okay, ils sont une espèce de déni spirituel de leur état, en fait, ils se trompent eux-mêmes. Et en plus, la vérité n'est pas en eux, puisque la vérité vient trancher quelque chose. Et je saute le verset 9 jusqu'au verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu un menteur. Lorsque la conviction vient sur soi, la part du Saint-Esprit, et qu'on dit non, puis on justifie et on explique à Dieu pourquoi on a réagi de telle ou telle façon, on fait Dieu menteur, et sa parole dépend de nous, parce que la parole, tout comme sa parole est la vérité, elle vient aussi trancher dans quelque chose. Par contre, prochaine diapo, si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, qu'il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai pris trois textes sur le péché? Fascinant, hein? J'ai une formation universitaire, moi j'ai un master en psychologie. Essayez d'imaginer que je suis à l'université au Québec, puis je dis à mes professeurs, quand là, je suis plus à l'université, je dis, j'ai découvert le problème chez l'être humain, c'est le péché. Qu'est-ce que vous pensez qui va m'arriver? C'est un illuminé, il vient d'où ce gars-là? Il sort tout droit du Moyen-Âge. Chesterton, encore une fois, a dit, le péché est l'aspect le plus controversé du christianisme et celui qui est empiriquement validé, scientifiquement validé à tous les matins à la lecture du journal. Si vous voulez savoir si le péché existe dans ce monde, regardez le journal télévisé. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez ce qui se passe en Iran. Regardez ce qui se passe dans la plupart des pays. Regardez la corruption un peu partout. Il y a un bug dans le système humain. Il y a une espèce de virus spirituel qu'on nomme le péché dans le christianisme et qui, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas adressé à notre propre condition, nous empêche de devenir ce que Dieu voudrait que nous soyons. Mais la Bible nous dit que si nous le confessons, il est fidèle et juste, il est là. Il nous attend, il est prêt, mais c'est à nous de reconnaître les choses. Lorsqu'on confesse à Dieu, on ne lui annonce pas quelque chose qu'il ne sait pas. On fait juste mettre en lumière, encore une fois, ce qu'il sait déjà, mais que nous, on a besoin de reconnaître. Êtes-vous toujours avec moi ce matin? Quatrième et dernière clé pour ce matin, la conversion. Tout à l'heure, je vous ai fait répéter ce texte, cette conclusion de Jésus. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est fascinant comme phrase. Le salut est entré dans cette maison. La conversion désigne un changement complet et le résultat provenant de ce changement. Trop souvent, malheureusement, nous associons la conversion à un changement de religion. Ce qui ne rend absolument pas justice au mot. La conviction, la conversion plutôt, constitue davantage un changement intérieur qui peut être soudain ou s'opérer sur un long et tout doux processus de transformation. Malheureusement, dans notre monde évangélique, on associe la conversion un peu comme une expérience d'un seul moment. En 1995, je me suis converti. Puis on a l'impression, on entend la phrase, c'est que c'est vraiment un passage d'un état à un autre, puis tout est réglé. Waouh! Instantanément transformé. Une nouvelle créature. La conversion, effectivement, ça désigne un changement complet, comme je le mentionne sur la définition, mais aussi le résultat provenant de ce changement. En fait, la conversion, c'est un retournement. C'est un détournement de quelque chose, mais c'est un retournement vers quelque chose d'autre. C'est un peu... D'ailleurs, la conversion, c'est aussi un travail sur soi. Il faut rester converti. Il faut être constamment converti. Ce qui veut dire, c'est que... Laissez-moi vous donner un peu une analogie. C'est un peu comme nettoyer une blessure. Plus le travail de désinfection de la plaie se fait soigneusement, plus la guérison va germer rapidement. Facilement. On nettoie les choses. Et ça, c'est le travail de conversion. Voici pourquoi ceux qui ont souffert dans la vie ou qui ont un passé lourd s'ouvrent davantage au changement. Parce qu'ils savent, ils reconnaissent l'état de leur condition et ça les amène à autre chose. Le christianisme a bouleversé le monde de l'époque parce qu'il proposait un changement de vie, un changement d'état à tous ceux qui reconnaissaient l'état délabré de leur situation. Voilà pourquoi Jésus se plaisait avec eux, contrairement aux gens religieux qui étaient convaincus qu'ils étaient bien, qu'ils étaient justes, qu'ils étaient droits et qu'ils étaient parfaits, quoi. Ça, c'est le sens de la conversion. Regardez bien la prochaine diapo. C.S. Lewis a dit « Si la conversion n'apporte aucune amélioration dans les actions extérieures, dans les comportements de quelqu'un, alors je pense que sa conversion était largement imaginaire. » Dites « Aïe, aïe, aïe. Oh. » Ça doit amener des changements dans la vie de quelqu'un. Être converti, c'est plus qu'être appartenir à une autre religion, ou à une autre église, ou à un autre milieu. C'est un changement de vie complètement. Dans la perspective chrétienne, c'est un changement de vie complet. Voilà pourquoi, lorsque Jésus a dit à Zachée, le salut est entré dans cette maison, il valide. C'est un verdict final. Il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme. Mais pourquoi il s'est passé quelque chose? À cause de sa confession, à cause de la reconnaissance de son état et de son engagement à changer les choses. Maintenant, on doit mettre absolument tout cela dans les conditions réelles de la vie. Dans notre mariage, vous voulez que votre mariage devienne ce que Dieu veut qu'il soit? Bien, vous-même devenez ce que Dieu veut que vous soyez. Votre mariage, ce n'est pas quelque chose qui se fait en dehors de vous-même. Votre mariage, c'est votre création. Vous voulez que votre famille devienne ce que Dieu veut qu'elle soit? Faites en sorte que vos relations avec vos fils et vos filles soient ce que Dieu veut qu'elles soient. Même chose dans l'Église, même chose dans la communauté, même chose au boulot, au travail. Être chrétien, là, c'est penser comme un chrétien. C'est marcher comme un chrétien. C'est vivre comme un chrétien. Pourquoi? Parce que c'est ça être chrétien. C'est pas juste confesser, propager, annoncer la bonne. C'est surtout, à quelque part, devenir des exemples de ce qu'est une vie transformée. Ce que nous sommes parle plus que ce que nous pourrons jamais dire dans la vie. On a tous vécu ces moments-là où ce qu'on est confronté, excusez-moi l'anecdote, on est confronté à une espèce d'illuminé évangélique qui se met à prêcher tout le monde, tu le regardes, tu n'as même pas le goût de devenir comme lui. Là, okay? Moi, après ma conversion, je savais qui je voulais pas être hein, dans l'Église. Je savais qui je voulais pas être. Tout ça prend place dans les conditions réelles de notre vie dans lesquelles nous devenons ce que Dieu veut que nous soyons. Et ça transforme nos relations. Ça transforme notre vie intérieure, mais aussi ça impacte tous ceux qui sont autour de nous. Et je crois que c'est ce que l'Église a besoin, plus que jamais. Je termine avec une dernière pensée, qui n'est pas du tout dans mes notes. Je pense que j'ai dépassé mon temps aussi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'ADN du monde évangélique, c'est l'évangélisation. On est toujours prêt à évangéliser, on pousse l'évangélisation, puis évidemment, on n'est pas contre cela, personne n'est contre cela. Mais souvent, cela se fait au détriment de la qualité de notre personne et de notre propre transformation personnelle. On propage le message, on annonce et tout ça. Mais notre vie n'est pas à la hauteur. Au diapason de ce que Dieu veut que nous soyons. Hier après-midi, j'écoutais un philosophe français qui s'appelle Michel Onfray. Peut-être que vous connaissez, qui n'est pas du tout chrétien. Dans une interview, quelqu'un lui reprochait, « Vous êtes athée, ouais. Qu'est-ce que vous avez contre les catholiques? » C'est la France, là, très catho. Puis il dit, « Ce que je reproche aux catholiques, c'est de ne pas être catholique. » Il dit, « Ce que je reproche aux chrétiens, c'est de ne pas être chrétien. » Donc, ils professent ces choses, ils s'identifient dans la culture, mais leur vie n'est pas conforme au message. Et je vous accorde que c'est pas facile. D'aimer son prochain comme soi-même, c'est pas facile. C'est relativement facile d'aimer Dieu, mais d'aimer son prochain comme soi-même, c'est tout un défi. Vous êtes d'accord? On est confronté à plein de gens qui sont profondément désagréables. Et aimer son prochain, ça va, mais aimer nos ennemis, moi, quand j'ai rien à faire, je n'appelle pas mon ennemi pour lui dire combien je l'aime, hein? Vous êtes d'accord avec moi que c'est un défi immense? Et quand je vous parle ici ce matin, c'est pas pour mettre un fardeau sur vous, c'est pour dire, si on veut avoir la vie que Dieu veut que nous ayons, il faut que nous devenions ce que Dieu veut que nous soyons. Il faut accepter d'être transformé. La conversion, ça amène une amélioration, ça amène des changements dans notre vie. Et la confession de Zachée dans ce récit, dans cette histoire, dans cette rencontre avec Jésus, démontre qu'il a expérimenté une réelle conversion. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dernier texte. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai de la louange sur les lèvres. Quand notre vie est mal en point, qu'on est malheureux autour de nous, à l'intérieur de nous, qu'on rend les gens malheureux autour de nous et qu'on s'ouvre à la perspective du changement. Le changement, ça devient quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, c'est un changement qui est en continu. On n'arrête jamais de changer dans la vie. Okay? C'est le chemin du perfectionnement, c'est le chemin de la perfection et c'est le chemin que Dieu attend pour chacun de nous. Et, croyez-moi, il ne nous laisse pas tout seul dans cet état. Et Dieu ne dit pas « change, change, change », il dit « laisse-moi ta vie à Dieu ». Vous savez, pour que notre vie change, pour que notre personne change, pour que notre vie change, il faut que Dieu la change. Donc, il faut s'ouvrir à cette perspective. Mais pour que Dieu puisse changer, me changer, il faut que je lui donne toute la marge de manœuvre dans ma vie. Je dis, Seigneur, voilà pourquoi je répète encore, Seigneur, je te donne tout. Fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Fais de moi ce que toi je te donne ma vie. Je me consacre à toi, non pas dans un geste religieux pour éviter la culpabilité. Je me consacre à toi parce que je veux que tu changes, que tu me changes, que tu me transformes. Et c'est ça que je veux. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Est-ce que je peux vous demander de vous lever à votre place, s'il vous plaît? Penchez la tête, fermez les yeux juste quelques instants, s'il vous plaît. Je ne peux penser à ce texte et prêcher sur ce texte sans penser au début de l'Église, comment celle-ci a bouleversé le monde de l'époque. Et le monde de l'époque était bouleversé parce que le message n'était pas dilué. Seigneur, tu as adressé chez les humains cet état intérieur d'hommes et de femmes, pécheurs et pécheresses. Parce que tu nous aimais, tu voulais nous extirper, nous libérer de tout ça. Et c'est ce que tu as apporté à la croix, Jésus. Afin que nous ne portions plus et que nous ne soyons plus asservis par tout cela, mais que nous marchions en pleine liberté. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici ce matin. Tu vois leur vie, tu vois leurs conditions. Certains sont peut-être des chrétiens de longue date et qui sont un tout petit peu habitués à être chrétiens, comme si maintenant c'est leur nature propre, mais cela ne se manifeste pas toujours dans leur façon de s'exprimer, de parler ou d'agir ou de se comporter ou d'établir des relations. Seigneur, parle à leur cœur ce matin. Qu'ils soient rafraîchis, qu'ils soient libres d'être ce que toi tu veux qu'ils soient. Je te prie pour ceux qui sont peut-être simplement tout juste de nouveaux chrétiens récents des derniers mois, dernières années ou à quelque part, mais ils luttent encore, ils combattent entre le bien, le mal, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent cesser de faire et tout ça. Seigneur, je prie en ce moment qu'ils s'ouvrent à toi en disant, Seigneur, change-moi, transforme-moi, je te donne ma vie entièrement. Seigneur, j'ai commencé à marcher dans tes voies, mais je vais aller au-delà de tout cela. Certaines personnes ici, vous êtes peut-être pour la première fois dans ce lieu, dans cette église. Et là, peut-être un peu, ça vous semble un peu bizarre, tout ce discours de ce matin. Je ne m'attendais pas à l'église à avoir un genre de message comme cela. Mais si vous êtes ici ce matin, c'est comme un peu comme Zachée, vous avez cherché à voir quelque chose. Le côté beau de l'histoire de Zachée, c'est que Zachée voulut voir Jésus, mais plus que tout, il a été vu par Jésus. Et quand Jésus l'a vu, Jésus est venu chez lui. Vous êtes venu ici ce matin pour voir quelque chose. Peut-être que vous avez été invité, mais Dieu vous voit, et Jésus vous voit ce matin, et Jésus vous interpelle ce matin en disant, si tu me laisses agir dans ta vie, je vais te transformer. Je vais te rétablir, je vais te guérir, je vais te restaurer. Seigneur, je te prie pour l'ensemble de cette Église, que tu puisses faire une œuvre, Seigneur, admirable, étonnante. Tout ce que tu fais, comme le pasteur l'a mentionné ce matin, est merveilleux. Et Seigneur, les plus belles merveilles, c'est chacun de nous qui sommes transformés à ton image, de jour en jour, de plus en plus, par ton esprit, Seigneur. Et je prie que tu fasses cette œuvre en toute liberté en chacun de nous. Sois élevé, sois honoré, honoré pour l'œuvre que tu fais. Dans ton nom précieux, Jésus, que j'ai prié, tous ensemble, nous pouvons dire amen, amen, amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Amen.
Ça va?